BW. Magazine Santé.
C'est une maladie grippale. La mortalité, elle est de 2 à 3%. Cette mortalité augmente lorsqu'on est beaucoup plus âgé, autour de 10 à 15%. Ce qui est plus important, c'est de bien protéger les sujets qui sont à haut risque, notamment les personnes âgées.
Protéger les plus vulnérables pour qu'ils ne contractent pas le coronavirus COVID-19. Mais ce coronavirus, qu'est-ce que c'est exactement? Quels en sont les symptômes? Et comment s'en prémunir? Autant de questions que vous vous posez certainement alors que la maladie à coronavirus COVID-19 défraie actuellement la chronique. Dans ce deuxième numéro de notre série consacrée ce mois-ci aux épidémies, nous allons nous intéresser de près au coronavirus. Carole Assignon micro, vous écoutez le magazine Santé. Depuis son apparition en décembre dernier en Chine, le nouveau coronavirus fait beaucoup parler de lui. Pas une journée ne passe sans qu'on apprenne un nouveau cas de contamination ou de décès. Avant de parler des symptômes et des moyens de prévention, arrêtons-nous un instant sur le nom donné à ce virus, COVID-19. Cette dénomination rendue publique par l'Organisation mondiale de la santé en février a été choisie selon l'OMS de manière à être facile à prononcer, tout en restant sans référence stigmatisante à un pays ou à une population en particulier. Co signifie corona, vi virus et D a été choisi pour disease, maladie en anglais. Le chiffre 19 indique l'année de l'apparition du virus, c'est-à-dire 2019. Pour parler de ce virus qui s'est si rapidement propagé dans le monde, nous avons contacté le professeur Didier Koumavi et Kouévi, chef du département de santé publique à l'université de Lomé. Il dirige également le Centre africain de recherche en épidémiologie et en santé publique. Il précise avant tout que la maladie à coronavirus COVID-19 fait partie d'une famille de coronavirus.
Les coronavirus font partie d'une famille de virus et qui sont susceptibles d'entraîner de larges éventails de maladies. On en a connu deux qui ont entraîné des épidémies graves chez l'homme. Le premier, c'était le syndrome respiratoire aigu syncytial, qu'on a appelé SRAS, qui a été responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003. Et le deuxième, c'est le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient et qui a été identifié aussi en 2012 au Moyen-Orient. Donc c'est le troisième coronavirus qu'on a finalement appelé le COVID-19, découvert en janvier 2020 parce qu'on a retrouvé des cas de pneumopathie en Chine.
Concernant le COVID-19, quand on parle des symptômes, c'est surtout la fièvre qui revient souvent, mais il n'y a pas que la fièvre.
Les symptômes, il faut les voir à trois niveaux. Donc, il y a un premier niveau, parce que là, c'est sûr maintenant qu'on a des cas asymptomatiques, c'est-à-dire des patients qui ont la présence du virus, mais qui ne présentent aucune manifestation clinique et qui sont quand même de l'ordre de 15 à 20%. On a une deuxième forme que nous appelons les cas aussi symptomatiques, c'est-à-dire avec quelques signes cliniques très mineurs qui sont proches d'un syndrome grippal ou de la grippe. Donc c'est de la fièvre, de la toux, des maux de gorge, des difficultés respiratoires, des douleurs musculaires et de la fatigue. Et le troisième niveau, ce sont les cas compliqués. Là, on a une infection pulmonaire sévère avec des signes de détresse respiratoire aiguë et des difficultés respiratoires.
Dans le cas du coronavirus COVID-19, on a l'impression que la propagation est très rapide, en tout cas plus que les deux autres dont vous avez parlé tout à l'heure. Comment une personne malade peut transmettre le virus?
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est avéré qu'une maladie qui est d'abord transmise par l'animal qu'on appelle classiquement une zoonose, a été le premier cas. Maintenant, on est sûr qu'il y a une transmission interhumaine, c'est-à-dire d'homme à homme, donc par voie aérienne. Ça se transmet par ce que nous appelons les postillons, c'est-à-dire tout ce qui vient des éternuements et des toux. Lorsqu'on est en contact étroit avec une personne qui est malade, à une distance qu'on considère de moins d'un mètre, il n'est pas exclu aujourd'hui qu'on a des cas de transmission après un contact avec des surfaces fraîchement contaminées, c'est ce que je peux appeler la transmission manuportée par ces sécrétions, lorsqu'on a touché des tables, des poignets, qu'il reste des sécrétions sur ces tables ou sur ces poignets. Donc, deux modes de transmission, la voie aérienne et également par la transmission manuportée.
Vous avez parlé tout à l'heure de malades qui portent le virus mais qui ne manifestent pas de symptômes. Est-ce que ces personnes peuvent également transmettre facilement le virus?
Non, théoriquement, tant que la personne ne tousse pas, la personne n'éternue pas, il n'y a pas de risque de contamination.
Actuellement, dans certains pays, il y a une rupture de stock de masques, hein, de protection. Est-ce que ces masques de protection sont réellement efficaces?
Il faut porter le masque lorsqu'on est malade. Quand on n'est pas malade, il n'y a aucun intérêt à porter ces masques de protection. Le personnel soignant, effectivement, doit porter ces masques de protection lorsqu'il est en contact avec des malades, mais ce que nous voyons actuellement au cours dans les stades de football ou dans les aéroports où tout le monde porte des masques de protection n'a vraiment aucun sens.
Notez que la tendance à porter un masque en raison de la crainte épidémique a entraîné une pénurie dans certains pays. Les fabricants et les revendeurs peinent à faire face à la demande. Il faut d'ailleurs savoir qu'il existe deux grandes catégories de masques, les masques chirurgicaux. Ce type de masque doit être jeté dès qu'il est souillé. Ces masques ne protègent pas directement leurs porteurs et sont donc inefficaces chez les personnes non malades. Les masques de protection respiratoire qui sont plus indiqués en cas d'épidémie. Le port de ce genre de masque est préconisé pour les personnes à risque majeur d'exposition, tels que les professionnels de santé au contact des malades. Certes, la maladie à coronavirus COVID-19 fait de plus en plus de victimes, mais selon le professeur Didier Koumavi-Ekoué, il n'y a pas lieu de céder à la panique.
C'est une maladie grippale. La mortalité est aux alentours de 2 à 3%. Cette mortalité augmente lorsqu'on est beaucoup plus âgé, autour de 10 à 15%. Et il faut avoir des gestes très simples, c'est-à-dire se laver les mains très régulièrement avec de l'eau et du savon pendant 45 secondes. Et utiliser des solutés hydroalcooliques, éviter de se serrer les mains, éviter les embrassades lorsqu'on est au stade 2 de l'épidémie.
Au stade 2, c'est-à-dire?
Au stade 2, c'est-à-dire que l'épidémie a déjà pénétré dans le pays et il faut tout faire pour éviter la diffusion de l'épidémie dans le pays.
Et il y a combien de stades à ce niveau de risque épidémiologique?
On distingue classiquement trois stades. Le premier stade, c'est lorsque le virus pénètre dans le pays. Le deuxième stade, c'est-à-dire qu'on a le virus qui a pénétré dans le pays. Maintenant, il faut éviter qu'il y ait une diffusion. Et le stade 3, on est vraiment dans un stade d'épidémie. Et puis le stade 4, on va revenir à une situation tout à fait normale avec le contrôle de l'épidémie.
La Chine a été accusée, hein, en ce qui concerne la gestion même de l'épidémie, de ne pas avoir, d'avoir manqué de transparence. Dans le cas de la gestion d'épidémies comme le COVID-19, la transparence est indispensable pour une bonne gestion?
Oui, il faut une identification rapide et une réponse rapide. Plus vous tardez à identifier ou à déclarer l'état, l'épidémie est déjà là et ça sera plus difficile à contrôler. La Chine a été, il y a une petite lenteur, mais très vite, ils ont communiqué avec les organisations internationales pour pouvoir prendre en charge l'épidémie.
Un mot, docteur, sur la recherche concernant le coronavirus COVID-19. Des recherches sont en cours, hein, pour trouver un vaccin. Est-ce qu'il y a bon espoir qu'on trouve assez tôt un remède?
Non. Ça prend du temps de trouver des vaccins, surtout tout ce qui est recherche vaccinale. On n'aura pas de vaccin dans les 12-18 mois à venir. On va essayer les médicaments antiviraux qui sont déjà utilisés dans d'autres pathologies virales pour voir si ça a un effet. Mais on ne doit pas tellement s'inquiéter dans la mesure où la mortalité reste relativement pas faible, mais de l'ordre de 2-3%. Ce qui est plus important, c'est de bien protéger les sujets qui sont à haut risque, notamment les personnes âgées. Donc, il n'y aura pas de révolution en termes de recherche médicale dans les 6 mois à venir, même s'il y a plusieurs recherches qui se font actuellement. Tout le monde est impliqué, tout le monde veut retrouver un antiviral pour traiter contre le COVID-19, mais je ne suis pas sûr que d'ici 2 ou 3 mois, on aura un remède miracle.
Si Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez le magazine Santé sur la DW. Aujourd'hui, nous parlons de la maladie à coronavirus COVID-19, un virus qui touche également l'Afrique. Des premiers cas ont été confirmés dans plusieurs pays sur le continent. Alors que les pays asiatiques et occidentaux peinent à contenir la pandémie, les experts de la santé s'inquiètent d'une propagation en Afrique où les systèmes de santé sont déjà surchargés de cas de paludisme, de rougeole, d'Ebola et d'autres maladies infectieuses. Plusieurs pays sur le continent se basent en effet sur l'expérience acquise dans la lutte contre Ebola pour faire face à la maladie à coronavirus COVID-19. Les agents de santé précisent avoir prévu des salles d'isolement dans les hôpitaux, mais beaucoup craignent que leur système de santé n'ait pas la capacité de faire face à une épidémie à grande échelle. C'est le cas du docteur Mekolo, responsable du comité en charge de la gestion des catastrophes à l'hôpital de Douala au Cameroun.
On est effectivement limité. Parce qu'après, on ne peut pas aller à plus de 3 malades. Donc, il faut qu'on ait un centre qui ait une grande capacité d'accueil. En plus de ça, il faudra quand même aussi du matériel adéquat. Parce qu'en fait, nous sommes dans un contexte d'épidémie. Donc, il faut s'attendre à avoir une grande population de personnes atteintes. Donc, pour cela, il faut que le matériel adéquat soit prêt et en quantité suffisante. Et également, que le personnel également soit formé.
Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont déclaré qu'ils étaient prêts à aider les pays touchés à relever le défi humain et économique de l'épidémie de coronavirus, notamment grâce à un financement d'urgence. Les deux institutions ont déclaré qu'elles se concentraient en particulier sur les pays pauvres où les systèmes de santé sont les plus faibles et ont exhorté les pays membres à renforcer leur système de surveillance sanitaire et de riposte pour contenir le virus. C'est déjà la fin de ce numéro du magazine Santé. La semaine prochaine, c'est Constance Fischer que vous retrouverez pour un nouveau numéro consacré toujours aux épidémies. Il sera question cette fois d'Ebola. D'ici là, prenez soin de vous. Yeah.
J'ai la peau couleur pétrole, donc tu connais ma richesse. Beaucoup trop loin sont mes Comores, donc tu connais ma tristesse. Même si j'ai poussé loin de la terre de mes ancêtres, dis-toi bien que mon archipel, c'est la racine de mon être. Yes, je suis français, fier de l'être. Mais quand je reçois ces lettres, j'ai le tsunami sur mes pommettes. Dans ma tête, des images refont surface. Le visage de mon grand-père, les mariages au village. Sache que je ne peux oublier l'odeur du poisson grillé. Quand j'allais me promener avec ma mère sur le marché, pour me réveiller, l'appel pour aller prier.